Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, bien, nous sommes avec notre chroniqueuse Poussadi Vani. Bonjour Poussadi.
Bonjour Arlette.
Pour ta chronique mortelle.
Yes.
Alors c'est la surprise, hein. On ne sait jamais ce qu'elle nous prépare, donc on va voir avec elle dans un instant. En deuxième partie d'émission, alors d'ailleurs, on dit merci à Poussadi parce que c'est elle qui m'en a parlé. On va recevoir Mohamed Soualmia, qui va nous parler d'un club de judo qui est très engagé auprès des jeunes et des jeunes avec des besoins particuliers, TSA, TDAH, non-voyants, déficiences, etc. Donc on parle de tout ça en deuxième demi-heure et merci beaucoup de me l'avoir présenté. Merci pour ça. Alors on part d'abord en musique avec groupe Jabour qui nous chante Myriade et après on retrouve Poussadi pour sa chronique.
Times I've won, of all the lives I've lost, nothing seemed as beautiful, or came at such a cost. And although I try to be more than a second chance that we'd be left behind. Now nothing's the same as it ever was before, and something has to change to open up that door.
Voilà, donc nous sommes avec Poussadi. Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Quel est le sujet de ta chronique?
Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale.
Ah? En quoi est-elle spéciale?
En fait, 25 novembre, c'est la date du décès du mari de ma grand-mère, mais en 1970. Alors ça fait 51 ans que cet artiste est décédé. Alors je trouvais que ça tombait bien pour ma chronique mortelle.
Oui, tout à fait.
J'avais envie de le faire revivre un peu parce que je le connais pas du tout, cet artiste.
Et un hommage.
Un hommage, quoi. Un peu un parcours de sa vie parce que il a été bien connu, mais vite oublié, en fait, parce qu'il est quand même décédé assez jeune, à l'âge de 49 ans. Alors, il s'appelle Éloi de Grandmont. Alors, Éloi est né d'un papa cultivateur à Baie-du-Fèvre. Et puis, sa maman, elle meurt à 36 ans. Et puis, ce couple a eu 12 enfants. Alors, mon le papa Dieu. Se retrouve tout seul. Et donc, à sa mort, il restait 10 survivants. À la mort de la maman, il reste 10 survivants comme enfants. Alors, ils ont divisé les 5 enfants. Et les plus vieux restaient avec le père sur la ferme. Et les plus jeunes, ben, sont allés, ils se sont dispersés, ils les ont dispersés dans la famille, dont Éloi, qui est parti, il y avait 1 an et demi, et a été élevé, en fait, au foyer de sa tante Ernestine. Et tout ça dans Nicolet. Aujourd'hui, d'ailleurs, Ernestine, c'était la sœur de son père. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une rue qui s'appelle la rue Éloi de Grandmont.
OK.
Alors, c'est ça. Alors, vers l'âge de 7 ou 8 ans, Éloi, il a commencé à écrire des courtes pièces de théâtre.
Déjà?
Ben oui. Puis, il se prenait pour un metteur en scène.
Comme quoi, quand le talent est là, des fois, hein?
Ben, c'est ça, tout à fait, hein? Alors, Éloi aussi a fait le séminaire de Nicolet. Et puis là, il y a des professeurs qui l'ont remarqué parce qu'ils le trouvaient très brillant. Alors, il le classa parmi les élèves les plus exceptionnels qu'il n'avait jamais eu.
Ah oui?
Mais pourtant, lui, Éloi, il n'était pas sûr de continuer ses études, même si les professeurs l'encourageaient. Alors, il a hésité à poursuivre ses études classiques. Ce qui a fait en sorte que dans sa jeune vingtaine, Éloi, à l'époque, Éloi Grandmont part pour Montréal, où il doit défrayer, justement, pour payer ses études, gagner son pain. Il fait des petites choses. Des petits boulots, mais comme il avait un talent pour l'écriture, il est devenu critique d'art au Devoir.
Ah ouais, dis donc, oui, ça, c'est pas un petit boulot, ça.
Ben, quand même, petit fou, c'est ça. Il y a un petit boulot fait son chemin, là. Alors, puis en 1946, il a été critique au Devoir de 1944 à 1946. Puis en 1946, il fonde avec un collègue journaliste qui s'appelait Gilles Hainaut une petite maison d'édition que je trouve charmante comme nom, là. C'est les Cahiers de la file indienne.
Ah oui.
C'est beau, hein?
Ah oui, c'est beau, c'est très joli, c'est vrai.
Puis cette même année, Éloi apprend qu'il est le boursier du gouvernement français. Et donc, il part faire ses études à Paris, à la Sorbonne et à l'École du Louvre. Et c'est là qu'il revient avec sa petite particule qui fait en sorte que c'est plus Éloi Grandmont, mais Éloi de Grandmont. Alors, il sera dorénavant Éloi de Grandmont. Donc, à son retour, avec son camarade Jean-Louis Roux, il décide de fonder une compagnie de théâtre qui s'appelait le théâtre d'essai, qui plus tard s'est transformé en Théâtre du Nouveau Monde.
Ah oui, bien connu, TNM.
Oui, c'est ça. Et puis, Théâtre du Nouveau Monde, c'est lui, avec une gang de joyeux lurons, là, Jean Gascon, il y avait Guy Hoffman, il y avait Robert Gadois, Georges Groux. Et puis, c'est Éloi qui a baptisé le nom de ce théâtre-là, qui est arrivé avec cette proposition-là que tout le monde a acceptée. Alors, ça sera le Théâtre du Nouveau Monde. Parce que le premier théâtre d'essai a duré juste 2 ans.
Alors, d'accord. Alors, c'est à lui qu'on doit ce nom du Théâtre du Nouveau Monde. D'accord, aujourd'hui.
Et puis, bon, ben écoute, à travers ça, il devient secrétaire, il a occupé le poste de direction au théâtre quelques années, mais il n'a jamais abandonné l'écriture. Alors, il a écrit quelques pièces de théâtre, dont une, en fait, il a écrit La Fontaine de Paris, Le Temps des Fêtes, mais il y en a une qui a traduit, qui a adapté, mais ça a été le premier à amener le joual dans les pièces de théâtre au Québec avant Michel Tremblay.
D'accord.
Quelques mois avant que Michel Tremblay, le jeune Michel Tremblay, justement, sorte.
S'en servait également.
Oui, c'est ça. Alors, c'était avec la pièce Pygmalion. Une traduction et adaptation de Georges Bernard Shaw. Alors, ça a l'air que ça a été un succès avec les textes des lois. Alors, il avait changé le nom. Et je me rappelle que ma grand-mère, elle me disait qu'il y a le nom d'une bonne qui est là
dans cette pièce?
Oui, puis c'était le nom de leur bonne à eux qu'ils avaient mis. Je me rappelle plus, là, le nom m'échappe, mais ils avaient repris la pièce, on l'avait vue, oui. Puis c'était le nom de la bonne qu'ils avaient transposée.
Alors, ils faisaient des liens, c'est joli.
Oui, fait que voilà. Et puis ensuite, Éloi a continué à faire dans l'écriture, les écrits, les poèmes. Puis il y a eu une maison d'édition dans sa maison, dans laquelle j'habite présentement. Et c'était les éditions Maisonneuve. Et j'ai retrouvé à travers toutes mes boîtes d'archives ces belles enveloppes et ces beaux petits... ces belles étampes. En tout cas, c'est tous des petits cartons là, avec la maison, mais représentés avec les éditions Maisonneuve. Alors, c'est ça, il a toujours poursuivi ce côté-là littéraire. Et puis, écoute, si tu voyais tout ce que j'ai à la maison, que j'ai pas eu le temps de tout trier, regarder, mais il y a des trésors cachés, dont
oui,
je t'en avais parlé, il y avait un manuscrit de Nelly Gant, parce que Éloi, bien sûr, Nelly Gant était une grande inspiration pour lui, tout comme certains autres auteurs.
Oui.
Et puis, ben voilà, donc moi, je le connais très peu, puis, tu sais, de gauche à droite, j'en parle des fois, mais il n'y a personne qui l'a connu. Tous ceux qui l'ont connu sont presque, ils ont presque tous disparu.
Eh bien, disons que des fois, il peut y avoir certaines personnes qui sont à la tête de certaines créations, puis qu'on oublie parce qu'ils ne sont pas devenus aussi célèbres que ceux qui ont suivi. Alors, c'est peut-être comme ça que son nom s'est un peu perdu, mais la reconnaissance s'était faite de son nom par la directrice du TNM, en tout cas, Lorraine Pintal, elle t'en avait parlé.
Oui, puis même encore là, ces gens de théâtre-là n'en connaissent pas autant sur lui non plus. Moi, je regarde les écrits, je regarde les choses que j'ai des caisses complètes avec des pièces de théâtre, là. Je me dis, est-ce que ça a joué, ça a pas joué, est-ce que c'est un inédit ou pas? Alors, tu sais, je me dis, avis à tous les jeunes metteurs en scène qui ont le goût de faire revivre des pièces, là.
Oui,
ils sont bienvenus à la maison, hein, pour venir fouiller.
Ben oui, parce que c'est une belle idée. Puis si t'en as des cartons pleins, ça vaut le coup d'aller lire et qui sait de prendre le texte écrit en joual toujours ou
Ah non, il y a plein de pièces de théâtre. C'était vraiment Pygmalion qui avait été seulement traduit puis qui avait été joualisé, là, si on veut.
D'accord. Ah ouais, bah, c'est impressionnant. J'en ai entendu des pièces en joual et j'ai trouvé ça super. j'ai eu la chance d'assister à ça. On fait une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après. Donc on part en musique avec Vandou qui nous chante Jupiter, tiens, on parlait de Pygmalion, Jupiter.
Répète comme un périco, je veux parcourir le monde, je pars pour un pays chaud. Par la bouche de mes canons, je vais disparaître illico.
Je ne réponds qu'à ma plume. Prends tes affaires, fais le move. En déménageant demain, je serai jamais le vôtre.
Je n'entre pas dans le moule. Prends tes affaires, fais le move. En déménage sur la lune. J'ai rien à foutre de vos codes. Je ne réponds qu'à ma plume. Prends tes affaires, fais le move. En déménage, en demande. Je sais jamais les vôtres. Je n'entre pas dans le moule.
Alors Poussadi, pour revenir sur ce personnage, tu me disais un petit peu hors antenne qu'en dehors des pièces de théâtre qu'il a écrites, il a aussi écrit des poèmes, des choses comme ça. Est-ce que ça ne serait pas tentant des fois de peut-être lire ces poèmes, de les faire voir et puis d'en faire une lecture pour les enregistrer, pour faire un livre audio?
C'est une super bonne idée. J'avais pas pensé à ça parce que je me demandais avec tous ces archives-là,
oui,
quoi faire. C'est sûr qu'il y a le fonds de la BANQ,
oui,
mais il y a des choses, bien sûr, que j'aimerais garder et partager. Mais par ailleurs, il faudrait que moi, je m'y penche, que je prenne le temps aussi de regarder tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Puis des fois, il y a des gribouillis avec des dessins. Puis à un moment donné, je me rends compte, non, finalement, c'est un dessin d'un artiste. Parce qu'il y a eu un de ses recueils de poèmes qui s'appelait Le voyage d'Arlequin, qui a été tout un succès. Et puis, il y en a une autre, c'est La jeune fille constellée. C'était son professeur, Alfred Pellan, qui avait fait les illustrations.
Ah, d'accord.
Puis Éloi avait fait l'école des Beaux-Arts aussi, 3 ans à l'école des Beaux-Arts. Alors, c'était vraiment un artiste multidisciplinaire.
Et
oui,
multitalent.
Multitalent.
Et en même temps, c'est bien peut-être d'avoir... c'est un appel au peuple qu'on peut lancer aussi, parce que c'est bien aussi d'avoir l'avis de ceux qui sont dans le milieu théâtral ou dans le milieu poétique, de venir lire des choses et puis de savoir ce qu'on peut en faire, parce que c'est presque dommage que ça dorme dans des cartons, tout ça.
Ben absolument, je suis d'accord avec toi. C'est ça fait partie du patrimoine aussi.
Ben oui.
Et puis...
Il a été existé, puis il peut peut-être aussi exister aux yeux d'autres personnes qui ne connaissaient pas son nom et qui ne savaient pas son parcours et ce qu'il avait fait. Ça fait aussi partie de l'histoire du Québec. Hein.
Oui, puis il y a des gens qui peuvent revisiter les pièces aussi.
Ah oui, les adapter. Les réadapter, oui, oui.
Ça, c'est intéressant.
Oui.
Parce que lui, il avait quand même beaucoup d'humour, alors il y avait beaucoup de choses que je lis des fois, des échanges entre lui, des correspondances avec Alfred Pellan, puis je vois que c'est assez sucré-salé, là. Limite très grivois, là, comme échange. D'accord. Alors, c'est toujours drôle de voir cet angle-là de ces artistes-là qu'on connaît peu, ou pas du tout. Alors, non, c'était une autre époque, hein, mais je me rendais compte en lisant que c'était... Quand les correspondances, là, l'écriture, c'est tellement beau, là, mon Dieu, ça chante, là, leur plume chante. Là.
D'accord. Et puis, dans ce que tu as lu, toi, ça t'a inspiré, puis tu te dis, est-ce que tu l'imagines? Parce que des moments, quand on lit quelque chose, on a les images, tu sais, qui nous viennent dans la tête, et puis on peut construire quelque chose, un film ou une pièce. Ça n'empêche pas que quand on va le voir, ça peut être autrement, mais nous, on se fait un décor dans notre tête. Est-ce que tu t'es fait ça avec son texte? Ben, avec certains de ses textes que tu as pu lire?
Ben, c'est difficile, parce que ma grand-mère, elle m'en avait jamais parlé. Jamais parlé, parce que ça a été une grande peine, parce qu'il est décédé, puis bon, bref, elle m'en a jamais parlé. Puis moi, je suis arrivée au Québec en 75, lui, il est mort en 70.
Ah oui.
Alors, c'est quand, suite à son décès, que je me suis retrouvée avec tous les ayants droit de cet auteur, et que j'ai dû me plonger là-dedans. Puis là, j'ai voyé des photos avec des artistes, il y avait Félix Leclerc, qui était un de ses amis, puis... Je vois que ma grand-mère, à son décès, elle avait fait l'espèce de petit texte, là, tu sais, mortuaire qu'on met dans le journal. Et ça disait qu'il avait côtoyé Saint-Exupéry, Ernest Hemingway. Alors, tu sais, alors moi, je cherche à travers des correspondances. J'ai pas fini de fouiller les valises.
Oui, paquet de souvenirs il peut y avoir.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai un tas de correspondances encore. Il y en a qui sont triées parce qu'il y a des gens qui étaient venus nous aider, parce qu'ils avaient besoin de faire des recherches sur certains auteurs. Et puis, par le fait même, ils nous ont donné un coup de main. Mais sinon, c'est là et ça attend. Puis moi, je suis quand même limitée dans le temps, mais si j'ai de l'aide, je vais être motivée, là.
Oui.
Et puis, ben, tu sais, c'est ça. Je trouve que ça dort, c'est dommage, parce que je pourrais le partager avec tellement de monde.
Mais ce serait une belle solution, et puis ça serait un beau moment à faire revivre, parce qu'après tout, on est là pour ça, on est là pour que l'histoire, elle se continue, elle se raconte, elle se prolonge, et non pas qu'on l'enferme dans un tiroir ou dans un placard.
Puis là, présentement, cette année, c'est le 70e du TNM. Puis là, je suis en train de défaire un peu les boîtes pour trouver tout ce qui est en lien avec le TNM. Puis j'avais envoyé justement à Mme Pintal quelques photos à elle et à son équipe de ce que j'avais. Puis c'était comme « wow, c'est formidable! » Et puis des grandes affiches de théâtre avec l'ancien logo du TNM depuis les débuts années, justement, 50, là, quand ils ont...
Ben, ce serait le moment ou jamais.
Oui, c'est ça, mais c'est tellement fragilisé, toutes ces affaires-là. Alors, eux... ont besoin de ça pour archiver aussi l'histoire du TNM, parce que je pense qu'Éloi, c'était un des seuls qui gardait tout, là, honnêtement.
Quand je t'entends dire ça, je me dis, bah, à toute petite échelle, hein, mais je me dis que des fois, aujourd'hui, on jette, en tout cas, moi, j'ai jeté très facilement des choses qui pourraient servir à notre descendance ou à d'autres, et qui sait, parce qu'après tout, la traversée d'une époque, ça s'explique aussi par les écrits qui restent.
Oui, mais maintenant, c'est plus facile, on peut numériser, c'est sur l'ordinateur, oui. Tout reste. Mais là, quand c'est en papier comme ça, archiver, numériser des grandes affiches, il faut avoir l'équipement.
Ah ben oui.
Déjà le transport.
Mais c'est là où tu peux avoir de l'aide à un autre niveau.
Oui, bien sûr. Aussi. J'en parle tout le temps, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lever la main, qui va dire «
Ça m'intéresse.
Ça m'intéresse, oui.
Je veux venir voir ce que tu as fait et comment c'est fait.
Ben, comme je ne l'ai pas connu, j'aurais souhaité un jour peut-être faire un genre de documentaire quête. C'est comme à la recherche des lois. Tu sais, c'était qui?
Ah, c'est beau, ça!
C'est beau, hein? Je trouvais que j'avais comme promis à ma grand-mère que j'aimerais ça qu'un jour le faire revivre, tu sais, parce que avant qu'elle meure, j'aurais aimé qu'elle m'en parle davantage, mais elle m'en parlait jamais de lui.
Peut-être parce que la souffrance était trop présente.
Oui, c'est ça. Alors, c'est moi qui essaie de faire des liens, mais je suis pas très bonne. Puis je me demande, il doit encore avoir des gens qui l'ont connu, puis qui sont capables de mettre des visages, des noms sur les visages, sur les photos, ou bien sur les signatures.
Oui, ou bien les reconnaître autrement, et puis ne serait-ce que raconter l'histoire. Déjà, le TNM, c'est un monument. Enfin, c'est un théâtre que tout le monde connaît, ou presque en tout cas, et puis qui existe encore aujourd'hui. Donc, toute son histoire des tout débuts, on sait plus son histoire vers les dernières années, mais des tout débuts, comment tout a commencé, puis ce qui a pu se passer pendant les 10 premières années, c'est intéressant de le savoir aussi.
Absolument. Puis en plus, il a écrit beaucoup de scénarios pour Renaissance Film, puis une trentaine de courtes histoires pour Radio-Canada, tu sais.
Ah ben ça, peut-être qu'ils les ont encore.
Ah écoute, la première fois que j'ai entendu la voix des lois, c'était avec une archiviste de chez Radio-Canada, puis ça m'avait vraiment touchée, là. J'avais jamais entendu sa voix, et puis c'était particulier, je m'attendais pas à ce genre de voix-là.
Mais c'était quoi quand tu dis « je m'y attendais pas »
Ben, c'était une voix qui était posée, je le pensais plus hyperactif, là, avec tout ce que j'ai à la maison, puis tous ces gribouillis, tout ce qu'il fait. Et puis, non, son éloquence, c'était, je pensais que... Non, je pensais plus grave, mais non, c'était très posé. Alors, voilà, ça sera ma quête, et puis...
Au milieu des tourbillons de papier, peut-être que c'était un homme calme, et puis qui savait prendre une chose à la fois, qui sait. Donc, encore une leçon d'apprentissage. En tout cas, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est sympa de nous l'avoir amené comme
ben
ça, parce que c'est une belle histoire.
Ah ben.
Et puis, une histoire qu'on espère ne pas rester enfermée. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, si jamais vous êtes intéressés, ben, écrivez-moi et puis je vous mettrai en lien avec Poussadi pour pouvoir regarder tout ça.
Ben, d'ailleurs, juste vite, là, Gilles Vigneault que j'ai rencontré cette année qui c'est le seul qui m'a parlé des lois de toutes mes rencontres et qui m'a dit que mon Dieu qui était connu comme le maire de Montréal à l'époque, qui avait beaucoup de talent.
Alors ça promet. Alors musique et puis on restait avec nous. On revient tout de suite. The Brooks, Funkin' Like.
So hold on fast. We bring it to you like they did in the past. I know that we wanna give it all, but not for real. You want it, but you got it. Here's the deal. We keep it live. That's how we play the game. If you don't, we go insane.
There's no click-clack to this game. Keeping it fun. Funky like Jane Brown. Funky like Candy-O. Candy-O. Keeping it simple. Like Jamaica sense. Y'all wanna puff puff pass me. Show. Check it out. We came to give you funky food for your soul. And once you had it, you never let it go. You said you wanted a piece of my pie. If you want it, we got it. Then here's the deal. We keep it live. That's how we play the game. If we do, we go the same. There's no rewind to this thing. Oh, keeping it funky.
Oh, funky like James Brown.
Keeping it funky.
Funky like Cameo.
Restez avec nous pour parler de ce fameux club de judo. À tout de suite, à toutes et à tous. On en parle dans un instant. Besoins particuliers, des jeunes avec des besoins particuliers, c'est ça ce qu'offre ce club de judo. À tout de suite.
Écoutez les Faramineux avec Arlette Fara.
Alors, on vient d'entendre Marvin Gaye qui nous chantait « Woman of the World ». Et maintenant, nous sommes avec Mohamed Souhaïmia. Bonjour, Mohamed.
Bonjour, merci beaucoup.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Allô, Mohamed!
Bonjour, ça va bien?
Oui.
Alors, on a décidé, donc, grâce à Poussadi qui nous en a parlé, de mettre en avant ce club de judo qui est un organisme communautaire et puis qui est engagé, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, auprès des jeunes qui ont des besoins particuliers. Alors, racontez-nous un petit peu comment cette création s'est faite. Et puis, il paraît que vous êtes un prof assez exceptionnel.
Moi, je progresse avec les enfants. Et quand ils ont besoin, moi, c'est là où j'excelle un peu. Le club judo Jikan, c'est créé par une volonté comme des parents. Après, quand on était avec Judo Himko, le Persa Blanc. C'est les parents qui ont décidé qu'on lâche pas ce club-là et on l'a créé, le club judo Jikan. Et le nom veut dire le temps. Ça veut dire que c'était le temps de partir quelque chose qui appartient à la communauté ici, sur le plateau aussi, à toute la communauté. C'est ça. Et on ouvre depuis longtemps avec des jeunes. Avec des jeunes qui viennent d'un milieu défavorisé.
Alors, comment ça se passe, Mohamed? C'est-à-dire que quand... je présume en tout cas, j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a toutes sortes d'enfants qui viennent là. Donc, ceux qui ont des besoins particuliers, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont des problèmes. J'ai vu qu'il y avait même des enfants non-voyants aussi.
Oui, c'est un club qui est ouvert à tous, là, vraiment, et on encourage l'inclusion aussi des jeunes ayant un besoin particulier. Oui, on touche à des jeunes qui ont des gens qui ont un TSA, des non-voyants. C'est vraiment ouvert à tous. Et pour le staff du club judo Jikan, c'est des expériences comme on apprend par ça aussi. C'est vraiment ça.
Alors, comment ça se passe pour vous, par exemple? J'aimerais apprendre à vous connaître un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu un coup de cœur pour ces enfants et que vous avez cette patience et cette compréhension envers eux?
Moi, je travaille depuis un petit bout. Depuis mon arrivée au Québec, j'ai développé un peu partout des projets dans les milieux scolaires, dans des écoles à besoin d'adaptation, à problème d'adaptation sociale, comme une école qui est reconnue comme Charles Bruno. Il y en a aussi une école évangéline et une école de jeunes autistes. Et les gens qui m'ont vraiment, vraiment accroché, c'est les jeunes TSA, où je me suis découvert avec eux, avec le temps, que vraiment, ils ont besoin comme nous, on a besoin. Et c'est de là que je me suis viré comme de la compétition à, comme on peut dire, au judo thérapeutique, c'est ça?
Oui, bravo.
Vraiment, au judo thérapeutique avec des jeunes... On découvre, on travaille un peu de tout. On découvre le corps, on découvre nos capacités à faire. Et c'est ça, c'est vraiment...
Est-ce qu'il y a des...
Je vous dirais comme des gens normaux, c'est ça dans l'ensemble, vraiment.
Est-ce qu'il y a des... est-ce qu'il y a des moments, des accès de violence qu'il faut canaliser, des choses comme ça, entre enfants ou peut-être... d'un enfant qui a déjà des soucis et qui a du mal à interagir avec les autres?
Oui, on voit ça souvent ici. Même juste hier, on avait un petit conflit ici entre deux frères et on a dû gérer ça. Et comme il y a une confiance qui s'est installée avec ces jeunes-là depuis un petit bout, là, on arrive à régler ces genres de problèmes-là et essayer de ramener à la maison... Une bonne façon de voir et un bon comportement. Et je suis sûr que ça marche parce que c'est déjà basé sur la confiance avec ces gens-là. Et on gère ça vraiment... Au judo, c'est rare que ça arrive, mais s'il y en a des jeunes qui ont comme un comportement violent, mais comme on dit, la chose la plus dure, c'est d'être face à face à quelqu'un. Et avec expérience, on a réglé pas mal de problèmes de même comme ça. Où le jeune qui est violent, il se retrouve avec un jeune qui est plus fort que lui. Et je suis sûr qu'il va se mettre à terre là. Il va retomber un peu la pression là. Il va voir qu'il est même, c'est un duel et c'est une question de personnalité ou ça se règle vraiment souvent et facilement aussi.
Et là, ceux qui sont dans le club du judo sont mêlés, les filles et les garçons?
Oui, c'est mixte, c'est vraiment mixte.
Donc, je présume, j'en souris d'avance, mais je présume qu'on explique aux garçons le respect des filles?
Ben, c'est le respect, comme on dit, le judo, c'est une école de vie pour la vie. C'est sûr, ça, c'est basé sur le respect.
Oui.
Le respect de l'environnement, le matériel, les personnes qui sont avec toi, les amis qui sont avec toi. Tout est basé sur le respect. On essaie de transmettre ça dans la vie quotidienne, dans le quotidien. Donc tout est basé sur vraiment. Et ce qui est formidable, avant le Covid et même avant le Covid, on a remarqué qu'il y a un engouement pour les filles ou à la pratique du judo.
Donc, ah oui?
Ouais, les filles sont vraiment en force la semaine. On en a comme c'est les filles qui dominaient plus le cours. Et c'était vraiment une belle expérience et ça se continue aussi. On aimerait ça que les jeunes filles aussi s'intéressent au sport de combat parce que c'est plus qu'un sport de combat, c'est un travail sur soi.
Oui, bien sûr, puis ça nous ramène aussi à l'autodéfense.
Oui, c'est ça, c'est un travail sur soi. C'est, quand tu as la confiance, je ne pense pas que tu vas arriver à te défendre à un moment donné. Le monde, ils vont le savoir avant qu'ils arrivent à t'approcher déjà.
Oui.
Donc, c'est l'attitude, comment tu es.
Oui,
comment
voilà, c'est ça. Oui, selon comment on se tient, et puis oui. Ça inspire le respect ou pas.
Oui,
c'est
oui,
ça. C'est leur apprendre à ne pas montrer qu'ils ont peur ou à accepter plutôt qu'ils aient peur et puis à comprendre ce qu'ils ont à faire, c'est ça?
Oui, parce que la peur, ça fait partie de nous. Là. C'est
soit oui.
On la nourrit, ça devient plus grand, soit on la contrôle et tout est gérable. Et ça, c'est pas l'expérience des compétitions que nous, comme anciens athlètes, c'est comme ça qu'on a travaillé sur la peur. C'est plus que tu fais de la compétition,
oui.
Plus que la peur s'enlève, plus que ça devient un quotidien. Mais il faut avoir peur pareil. Il faut avoir une certaine peur parce que
oui.
On est juste des êtres humains. Donc,
c'est vrai. Mohamed, on va faire une pause musicale. On reste ensemble. On se retrouve tout de suite après cette chanson, d'accord?
Ok, merci.
Alors, on va écouter Véranda. On va tuer de bien. Ben, merci. On va tuer de bien.
Quand chaque fin de mois nous fera plus grincer des dents, quand on ira de nos 20 ans, nos anciens appartements, ton vieux char qui part rien qu'une fois de temps en temps. On va-tu être bien? Après ça, je ne demande plus jamais rien.
Oh non!
Est-ce que plus tard ça ira mieux? Est-ce qu'on vivra toujours heureux? Faudrait pas passer à côté. Est-ce qu'on va s'ennuyer d'hier? Est-ce que nous regardons? Où est-ce qu'on pensera au passé? Quand
temps pour trôner devant tous nos précieux moments. Quand on aura un lapin de terre, une véranda puis des rires, on sera assurés de plus jamais manquer d'air.
On va tuer avec pain. Après ça, je ne manque plus jamais rien. On va tuer.
Et voilà, alors on se retrouve avec Mohamed Soualmia. Mohamed, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur ton parcours. Tu es né où et tu as fait quoi? Tu es devenu prof de judo tout de suite?
Moi, je suis d'origine algérienne. Je suis né en Algérie.
D'accord.
Je suis arrivé au Québec, au Canada, en 1999. J'étais athlète d'élite en Algérie.
Ah!
Oui, j'étais un ancien champion et qui a fait son époque un peu.
Bravo!
J'étais prof d'éducation physique aussi en Algérie.
D'accord.
Donc, quand je suis venu ici, j'ai continué comme dans le chemin de judo, mais à cause d'autres choses, là, on n'a pas pu travailler comme prof d'éduc, et même ça continue, mais j'ai développé mes propres projets dans les écoles avec des jeunes, comme vous avez dit.
Oui, c'est une belle chose.
Oui, je suis un ancien athlète, un ancien prof, et j'essaye de ramener un peu l'expérience que j'ai vécue, mais moderne un peu.
Bah, en tout cas, ça a l'air de marcher très fort parce qu'ici, on va prendre deux petites minutes pour écouter Poussadi, qui est une maman d'élèves et c'est elle qui m'a parlé de cet endroit et de vous. Donc, elle va témoigner un petit peu. Alors, on écoute ce qu'elle a à vous dire.
Moi, c'est mon show à chaque samedi matin. Hein, alors, je suis aux premières loges de ce spectacle-là. J'adore. C'est des professeurs passionnés qui sont là. Mohamed travaille avec...
Abdel,
excuse-moi, là, je vais y arriver, là, je m'y perds parce qu'il y a des parents aussi. La beauté, c'est qu'il y a des papas qui participent aussi. Puis c'est très familial. Ils sont là avec leurs enfants, puis aident les autres enfants. La dynamique est fantastique. Puis c'est des gens qui ont une humanité, qui ont une empathie, puis qui ont beaucoup de plaisir à travers la discipline. Alors moi, c'est comme le pouvoir. Hein. Moins tu l'utilises, plus t'en as, mais c'est la même chose à cette école de judo. Alors, la discipline, là, les enfants finissent par écouter. Il y a une façon d'aborder les choses. Et puis, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection envers les enfants, même s'ils se font chicaner. C'est-à-dire, chicaner, le mot, c'est pas approprié, là, mais on les ramène un peu dans le droit chemin. Là, mais moi, j'adore, je rigole, ils sont drôles. Puis on est là, les parents, on est complètement gaga, tu sais. Mais mon mari, il dit « Coudonc, qu'est-ce que t'as?
» Voilà. Donc, elle veut presque devenir élève, je le sens bien comme ça.
Ah! Il nous love à chaque fois.
Pardon. Mohamed, est-ce que tu as toi-même des enfants?
Oui, j'ai deux enfants, moi. J'ai un enfant, deux gars. J'ai un gars de 20 ans qui s'appelle Karim et un autre de 15 ans qui s'appelle Malik.
Ah, d'accord. Eh ben, très bien. Est-ce qu'ils sont ravis de ce que tu fais, de cette école et de tout ce que ça donne aux autres enfants?
Oui. Ils ont fait du judo aussi avec moi. Et après, les chemins, ils se sont séparés un petit peu. Chacun a choisi ses propres sports et je respecte ça. Parce que je suis sportif et j'aime ça, les sports. Mais ils ont côtoyé ça. Ils sont fiers d'appartenir à Judo Gécane aussi. Ils ont quelque chose là-bas. Ils ont appris à marcher sur le tapis.
Ça, c'est beau.
Oui.
Alors, maintenant, on va faire comme un petit regard en arrière. Quand tu disais être venu d'Algérie, puis tu pensais être prof de sport dans une équipe, dans une école. Aujourd'hui, le chemin qui est fait, tout ce qui crée cette école de judo, ce qui fait que les parents sont ravis et les enfants, on n'en parle pas assez encore plus, sont passionnés. Est-ce que tu es fier du travail accompli?
Oui, vraiment, vraiment fier du club de judo, là où il est rendu, avec le staff, l'équipe qui est avec nous aussi, les parents qui travaillent avec nous, qui montent sur le tapis. Vraiment, c'est un exploit. Et on est devenu comme les parents, on est devenu une référence pour des jeunes et pour travailler avec des jeunes à besoin ou sans besoin. Donc, vraiment, c'est une fierté pour la communauté aussi, ici, sur le plateau aussi, pour... Vraiment, moi, je suis fier et, comme je vous dis, je vais donner ce que je peux jusqu'à la dernière minute. Donc, ça, c'est sûr et certain.
En tout cas, moi, ce que je trouve de bien quand je t'entends parler, c'est que les jeunes qui ont des besoins particuliers, puis ceux qui n'ont pas de besoin, ben, ceux qui n'ont pas de besoin, ça leur apprend à comprendre les besoins particuliers des autres. Et ça, je trouve ça hyper important.
Oui. Des fois, on responsabilise des jeunes, on les laisse un peu avec quelqu'un qui a vraiment un besoin et tout. Et on voit les jeunes comment ils deviennent affectifs, ils deviennent comme si nous on est
responsable.
Oui, c'est ça. Ils donnent et ça fait partie des principes du judo, c'est l'entraide, c'est ça, être là pour l'autre.
Une bienveillance.
Oui.
Et une grande sensibilité là.
C'est ça, on développe nous comme on dit. Moi, j'étais compétiteur, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il n'y a pas juste la compétition.
Ah oui.
On peut construire des hommes de demain. La compétition, c'est une étape parmi les étapes, mais l'objectif en arrière de tous ces arts martiaux, ou le sport en général, c'est de construire des hommes de demain et les femmes de demain, avec un caractère, avec une force d'esprit, un jugement correct... C'est ça.
Oui, avec ces équipes. Apprendre à travailler en équipe. D'ailleurs, c'est le même genre de choses que j'avais vu passer. Je me rappelle plus le nom que ça donne, mais c'était l'histoire dans un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel, où on proposait à des enfants de recevoir un énorme panier plein de fruits, puis ils faisaient une course. Et puis le premier, quand il arrive, s'arrête avant le fil d'arrivée, attend le deuxième, qui attend le dixième, qui attend le dernier, pour qu'ils arrivent tous ensemble et qu'ils aient tous ensemble droit à ce cadeau.
Waouh, ouais, ça c'est une belle image là.
Ah oui, et je trouvais ça absolument magnifique et je me dis que c'est un petit peu ce que tu es en train d'apprendre aux enfants par cette école et de la compréhension de l'autre et c'est bien quoi.
Oui, en même temps, nous jeunes, c'est l'avenir de demain, c'est le mélange, tout ce qu'il y a comme mélange sur le tapis ou ailleurs, là.
Oui.
C'est l'avenir du pays, là, de notre pays, là. C'est notre avenir. C'est eux qui vont former les gouvernements, c'est eux qui vont former les responsables de demain, et le mélange doit faire en sorte qu'il y ait de la compréhension envers tout le monde. Et c'est général, l'éducation, c'est vraiment ça.
Mais en tout cas, moi, je suis ravie que Poussadi m'ait présenté cette école et je suis ravie de t'en avoir parlé. Et ça fait combien de temps qu'elle existe?
Nous, on l'a ouvert Judo Jikan. Avant, on était comme Judo Imko depuis longtemps, mais Judo Jikan depuis le 12 juillet 2012.
Ah oui, quand même, ça va faire bientôt 10 ans.
Oui.
L'été prochain, donc ça se fête. Est-ce que dans la dernière minute d'émission, parce qu'on arrive en bout de l'entrevue, est-ce qu'il y a des projets qui sont à venir aussi?
Oui, on a toujours des projets on essaie de développer des projets avec l'école Jeanne Mance aussi, avec pour les jeunes filles, autodéfense pour filles.
D'accord.
Mais on essaie de remettre un peu les filles en avant-plan parce qu'ils en ont besoin.
Oui.
Ben il y a toujours des projets, les jeunes avec des jeunes hôtels, TSA aussi, ça a repris. C'est le Covid, on ne s'attendait pas, mais comme le monde ils ont répondu comme vraiment positif et nous on était comme contents de voir le monde aussi.
Et ben en tout cas, Mohamed Soualmia, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de faire ta connaissance et puis on te souhaite belle et bonne continuation pour tout ça.
Merci Mohamed, on se voit samedi matin.
Merci.
Le plaisir est pour moi et vraiment merci beaucoup pour comme cette intention, cette invitation. Et on vous promet que Judo Jikan va rester fidèle à sa mission.
Bravo, super, merci beaucoup, au revoir Mohamed.
Bye.
Merci, bye bye, à samedi.
On écoute Rosie Vallant qui nous chante « Loin ».
I'm not afraid.
Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Et puis, on a envie de dire, bah, écoute, merci beaucoup, Poussadi Vani, pour ta présence et puis pour ton invité, Mohamed Soualmia, on répète. L'école de judo, elle se trouve où, à Mont-Royal ?
Bordeaux, oui, sur Bordeaux.
D'accord.
Sur le plateau.
Donc, comment elle s'appelle ?
Judo Jikan.
Voilà, Judo Jikan. Donc, si vous voulez chercher, vous savez où, pas où mettre vos enfants et que ça vous a plu, eh bien, allez-y, ne vous gênez pas. Donc, merci beaucoup, Maurice Bolduc, pour les musiques. Et puis, à vous toutes et à vous tous, je vous dis à demain, parce que demain, c'est la fin de la semaine.
Merci à toi, Arlette.
Nous sommes jeudi, alors donc, on fait la fin de la semaine. Bye bye à toutes et tous.
Bye bye.
Au revoir et à demain. Alors, on prendra demain. Il y a encore demain. On finit en musique. Hein, je vous le signale pour ceux qui sont là. En général, le vendredi, souvent, on a un ou une invitée musicale. Et là, on aura une invitée musicale. Alors, soyez avec nous parce que elle sera là en studio. Bye.